que leurs demandes sont justifiées ?
Eh ben non, totalement injustifiées, et cela pour trois raisons au moins. La première, c'est que pour la quatrième année consécutive, les augmentations prévues par notre champion du rail seront a priori en moyenne plus élevées que l'inflation. On parle de 2,2% contre 1,5% prévu par la Banque de France pour les prix. La deuxième raison, c'est que la SNCF est un groupe qui embauche, qui fait plus que compenser tous les départs naturels. Et chez eux, les bas salaires comme le SMIC augmentent quand même de 10%, ce qui est déjà pas mal. Et puis, dernière raison, les syndicats de la SNCF vivent sur le mythe entretenu par la direction du groupe d'une SNCF qui serait rentable, qui ferait plus d'1,5 milliard de bénéfices. Alors sur le papier, c'est vrai. Et d'ailleurs, les cheminots ont déjà droit à un intéressement qui va de 650 à 1300 euros selon les jobs, ce qui n'est pas rien. Mais si la SNCF affiche des bénéfices, bah c'est parce que les Français aiment le train, bon, parce que le groupe a fait des efforts en matière de gestion, on va pas le nier, mais c'est surtout parce que comme dans tous les pays qui défendent le ferroviaire, le train bénéficie tous les ans de dizaines de milliards de subventions et de soutiens payés par les impôts et les taxes sur les entreprises. Les cheminots méritent d'être bien payés, c'est sûr. Pas forcément d'être beaucoup mieux payés, car ils le sont déjà, et ce sont les Français qui payent une bonne partie de la facture. Et eux ne seront pas tous augmentés cette année, il me semble.
Le décryptage écho de David Barou. Bonne journée David et à demain.
La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau.
Et à 8h11, l'édito politique de Guillaume Tabard du journal Le Figaro. Bonjour Guillaume.
Bonjour Marc.
L'expulsion par Alger de 12 ressortissants français est une douche froide pour Paris. Est-ce que cela risque de réduire à néant la tentative d'apaisement entre la France et l'Algérie?
C'est en effet un très mauvais coup de plus porté par les autorités algériennes. Alors, faut-il parler de provocation ou d'humiliation? En tout cas, que cela intervienne quelques jours seulement après la reprise du dialogue entre les deux pays prouve que le régime d'Abdelmadjid Tebboune n'a pas du tout l'intention de renoncer au bras de fer avec la France. Rappelons que cette décision d'expulsion de 12 fonctionnaires français est censée répondre à la mise en examen à Paris de 3 ressortissants algériens suspectés d'avoir participé à l'enlèvement et à la séquestration d'un influenceur hostile au pouvoir de Tebboune. C'est donc une décision politique arbitraire qui répond à un acte de justice fondé en droit. Alors, l'exécutif se donnait hier 48 heures pour faire reculer Alger et tirer toute cette affaire au clair, sous réserve d'une réponse dont les modalités restent d'ailleurs encore à définir. Mais on est quand même face à une escalade qui risque de réduire à néant les timides avancées de ces derniers jours.
Peut-on parler de camouflet personnel pour Emmanuel Macron, Guillaume?
C'est à tout le moins un pied de nez magistral fait à celui qui, alors que le chef de l'État, lui, se targuait d'avoir débloqué la situation. Sur les deux piliers de la crise, entre Paris et Alger, la détention arbitraire de Boualem Sansal et le refus de reprendre les ressortissants sous OQTF, il y a d'abord eu, on se souvient, le discours musclé du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et la mise en place, validée par François Bayrou, d'une riposte graduée pour contraindre leurs ressortissants sous régime algérien à appliquer tout simplement les accords de 94 prévoyant le retour de leurs nationaux ayant fait l'objet d'une décision d'expulsion. Et puis il y a eu ensuite une approche plus diplomatique, pour laquelle Emmanuel Macron s'est mis en première ligne et approche mise en œuvre par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Ce fut le fameux coup de téléphone du 31 mars, de président à président, et la reprise du dialogue, avec à la clé, voulait-on croire, une possible grâce de Boualem Sansal et un respect de l'accord de 94. Eh bien, la méthode douce, si l'on peut dire, n'a pas mieux réussi. La méthode Macron montre ici ses limites.
Ce nouvel épisode peut-il avoir aussi des conséquences de politique intérieure?
Alors déjà, on voit bien que ce dossier algérien s'invite dans la bataille entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau pour la présidence des Républicains. Le député de la Haute-Loire reprochant au ministre de l'Intérieur de ne pas obtenir de résultats concrets. Mais le camouflet infligé à la méthode diplomatique va rendre de la pertinence à l'approche plus musclée défendue par Retailleau. Ah bien sûr, c'est dans la nature des choses que le Quai d'Orsay pousse ce dialogue à tout prix et que la place Beauvau affiche de la fermeté avant tout. Mais si la France veut vraiment faire bouger Alger, eh bien le premier impératif est que tout l'exécutif, Élysée, Matignon, Quai d'Orsay, Beauvau, soit rigoureusement aligné et interprète exactement la même partition. Et pour l'instant, on n'en est pas encore tout à fait là.
L'édito politique de Guillaume Tabard, comme tous les matins. Merci beaucoup Guillaume, et à demain.
Radio Classique. Rediffusion de la matinale d'hier.
Bonjour Jean-Paul Chang.
Bonjour.
Et bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes économiste, cofondateur de la Lettre de Chine. 145% pour les produits chinois, 125% pour les produits américains. La bataille des droits de douane se concentre plus que jamais entre Washington et Pékin finalement. Et une question simple pour commencer Jean-Paul Chang. À quoi assiste-t-on en vérité depuis quelques semaines entre les deux pays ?
On assiste finalement à une comédie, hein, pour le moment, c'est vraiment la surenchère verbale, parce que tout à fait entre nous, 125 ou 145% de taux de douane signifie en fait on arrête le commerce, quoi. Ça, c'est totalement irréaliste, c'est-à-dire que personne, aucun décideur finalement dans les entreprises et d'exportation et d'importation ne vont faire quoi que ce soit avec un taux aussi prohibitif. Donc ça a un effet éventuellement très récessionniste, mais précisément parce que c'est irréaliste, on sent qu'en fait ça ne peut pas durer. Donc en fait c'est aussi une posture pour demander des négociations. Alors le problème c'est que les Américains demandent à ce que les Chinois... Alors, Trump passe son temps à dire que j'attends que Xi Jinping m'appelle, et comme Xi Jinping n'appelle pas, il augmente encore le taux. Or les Chinois ont suivi jusqu'à 125 symboliquement pour montrer que ils n'acceptent pas un rapport de force arbitrairement imposé par les Américains. Et qu'en dehors de ça, à partir de 125% de taux affichés, ils ont fini par dire, écoutez, c'est un jeu de chiffres, ça ne nous intéresse pas, si vous voulez vous continuer à vous amuser, amusez-vous tout seul. Hein, donc ça signifie que ce n'est pas ce niveau de taux affiché impraticable finalement que les choses vont se passer. D'autant plus que vous savez que les Américains sont revenus, ils ont exempté les ordinateurs portables, les smartphones,
ouais.
Ça représente, suivant les estimations, il y en a qui disent c'est 25, mais en réalité, il y a des gens qui expriment que c'est pratiquement 41% des importations américaines des produits chinois. Vous voyez bien que la réalité est encore très loin, finalement, de la surenchère affichée. Hein. Donc, en fait, le mot négociation reste présent. Et dans le discours américain et dans le discours chinois. D'ailleurs, le monde entier, en fait, attend finalement qu'il y ait des négociations d'une façon ou d'une autre. Reste à savoir qui, finalement, va trouver la meilleure solution de compromis pour que les négociations sérieuses commencent.
On parle beaucoup de la partition, on va dire, politique, la gestion politique de Donald Trump au gré de ses différentes déclarations. Beaucoup moins sur celle de Xi Jinping. Quelle partition joue le président chinois dans ce bras de fer aujourd'hui?
Alors, en fait, je pense que la Chine s'est un peu préparée au deuxième mandat de Donald Trump. Il se rappelle finalement des conflits déjà à propos du commerce sino-américain lors du premier mandat. Il y a eu des chocs très durs, aussi des affichages de position, des postures très, très fermes. Et puis finalement, il y a eu des négociations difficiles, certes, enfin, des négociations qui ont abouti en janvier 2020 et ils ont signé les accords à Washington. Le problème, c'est qu'il y a eu le Covid et les deux parties finalement n'ont pas respecté vraiment les promesses contenues dans les accords de l'époque. Mais par cette expérience, les Chinois connaissent un peu l'attitude de Trump ou la nature, disons, de l'équipe Trump.
Pas de surprise.
Ils savent que c'est imprédictible, il y a beaucoup de choses, il y aura beaucoup de surprises. Donc fondamentalement, je pense qu'ils se sont préparés depuis quelques années déjà, d'une part à diversifier les marchés d'exportation et à diminuer finalement la dépendance vis-à-vis des États-Unis, ce qui est vrai d'ailleurs, puisqu'ils représentent plus que 11% finalement des importations américaines. Hein. Et maintenant, ils ont développé fortement les marchés en Amérique du Sud ou ailleurs, donc dans le sud-est asiatique aussi.
Bon. On va en reparler justement, oui, de ce déplacement.
Absolument. Et donc, ils se sont préparés, ils se sont donné les moyens finalement de résister à ce premier choc. Deuxièmement, très très vite, après l'annonce des 35%, les premiers 35% ou 50%, les Chinois ont publié un livre blanc. Un livre blanc qui fait une trentaine de pages, qui est intéressant à lire parce qu'en fait, ça analyse en détail, chapitre par chapitre, toutes les relations économiques, pas seulement du commerce, mais aussi donc les relations financières, les relations d'interdépendance entre l'économie américaine et tous les points peuvent être discutés. Et le document qui s'appelle un livre blanc se termine par « nous sommes prêts, nous sommes ouverts aux négociations cela signifie qu'en fait, ils sont pas d'accord sur la définition le mode de calcul des excédents commerciaux, etc., etc. Ils veulent montrer aussi que les entreprises américaines qui ont investi en Chine, qui produisent en Chine et qui distribuent sur le marché chinois, il y a Apple, il y a Starbucks, et encore bien d'autres, il y a Tesla, tout ça. Ces entreprises américaines qui fabriquent en Chine et qui ne sont pas dépendants donc des droits de douane chinois, vendent sur le marché chinois quelque chose comme 500 milliards. Donc c'est aussi considérable. Hein. Donc les relations sont peut-être pas aussi déséquilibrées, au sens des Chinois. Donc ils disent, écoutez, si on s'expliquait calmement, peut-être que... Voilà. Donc en gros, la partition jouée par Xi Jinping, c'est montrer que la Chine finalement est une puissance calme, d'équilibre, et qui ne fait pas de la surenchère dans l'agressivité excessive, mais par contre une position de principe qui consiste à dire toutes les manifestations, disons, irrationnelles, finalement, recevra une réponse ferme. Voilà, mais on sait très bien que c'est irréaliste et que tôt ou tard, il y aura des négociations.
Xi Jinping, méthodique, on pourrait finir par résumer cela. Il se rend actuellement en Asie du Sud-Est, on l'évoquait, au Vietnam, en Malaisie, au Cambodge. C'est quoi? C'est une visite de courtoisie? Quelles sont les arrière-pensées dans ces visites?
Alors, la diplomatie vis-à-vis des pays voisins, c'est un élément fondamental de la diplomatie de Xi Jinping, tel qu'il a défini en arrivant au pouvoir. Donc pour lui, il y a la diplomatie des grandes puissances, donc en relation avec les États-Unis, avec l'Europe, avec la Russie, etc. Et tout de suite vient cette notion de diplomatie des pays environnant. Il y a 12 pays qui ont des frontières communes terrestres avec la Chine. Ils ont normalisé donc tout ce qui est, en gros, les tracés de frontières, sauf avec l'Inde encore. Il y a encore des contentieux, mais autrement, je vais dire, et ils ont développé fortement les relations commerciales. Alors, avec les trois pays que Xi Jinping va visiter, à savoir aujourd'hui le Vietnam, ensuite c'est le Cambodge et la Malaisie, ces pays font partie des pays de l'ASEAN. Il faut savoir que l'ASEAN est une zone économiquement de plus en plus intégrée avec l'économie chinoise. Et tous ces pays de l'ASEAN sont excédentaires en termes d'export vis-à-vis de la Chine. Donc, ils bénéficient finalement de la croissance de l'économie chinoise. Et donc, Xi Jinping, il renforce évidemment tous ces liens, parce que l'ASEAN est une zone avec qui la coopération, ça n'a rien à voir avec les années 50 ou 60. À l'époque, c'était une organisation relativement hostile à Pékin. Aujourd'hui, c'est des partenaires commerciaux très importants, et donc c'est normal que Xi Jinping va consolider un peu cet environnement à côté, comme les Américains l'ont fait éventuellement, auraient dû faire avec ses voisins, le Canada ou le Mexique.
Avec l'idée de vendre peut-être les quelques-uns des 340 milliards de dollars de biens qui sont invendables aux États-Unis. Est-ce qu'il est en train de liquider les stocks,
expression? Faut pas aller trop vite, c'est-à-dire qu'en fait... vous parlez finalement des excédents, quoi, sur papier, mais en réalité, il faut discuter, parce que sur ces 340 milliards, en fait, les Chinois gagnent très très peu, parce qu'en fait, c'est les produits qui ont été fabriqués dans je ne sais combien de pays avant d'être assemblés en Chine.
D'accord.
Bon, ça, c'est un des points de discussion que les Chinois souhaitent avoir avec les Américains, pour dire, attendez, n'exagérez pas les choses, certes, il y a un excédent en termes de balance de commerciale, mais peut-être il faut aussi regarder le problème sous l'angle de ce qu'on appelle la balance des paiements, c'est-à-dire que prendre les autres éléments. Donc, je pense que c'est des négociations qu'il faut avoir, mais le problème, c'est que si Pékin a probablement une bureaucratie et des équipes très, très rodées, très considérables, ils ont un problème, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression de ne pas trouver de bons... ils ne comprennent pas leur interlocuteur américain aujourd'hui, puisqu'ils ne comprennent pas exactement quelle est la théorie économique qui préside leur pensée, puisque où est passé Ricardo, hein, où est passé tout ça, donc ils ne comprennent pas, mais c'est exactement quoi? Qu'est-ce qu'on cherche? À diminuer finalement ce déficit? Ou revenir l'industrie aux États-Unis? Mais il y a des buts qui sont réalisables, il y a des buts qui sont pas vraiment réaliste. Hein. Donc, quelque part, il faudrait qu'ils discutent entre eux. Les Chinois peuvent acheter plus, effectivement, de produits américains, que ce soit les produits agricoles ou les produits énergétiques. Encore faut-il qu'il y ait une ambiance de discussion, avec un respect mutuel et avec un souci de bénéfice mutuel.
Parce que s'il y a négociation, vous le disiez, Pékin ne comprend pas actuellement son interlocuteur. Ça annonce des négociations sacrément ardues par la suite.
Ah, mais je pense que de toute façon, ça sera assez chaotique. Mais compte tenu de l'expérience du premier mandat, il n'est pas impossible quand même qu'ils arrivent quand même à des accords. D'autant plus que c'est dans l'intérêt quand même des acteurs économiques des deux pays. Hein. Donc, vous avez énormément de pays. Encore une fois, vous avez des entreprises qui vendent beaucoup sur le marché chinois. Il y a des entreprises qui ont la garantie de leur marge parce qu'ils importent des composants de Chine, etc. Les Américains ont besoin de la terre rare chinoise, des terres rares qui sont exportées par la Chine, tout ça. Donc,
les semi-conducteurs aussi, une décision qui sera prise dans les prochaines semaines.
Les Chinois ont besoin que les Américains ne fassent pas le blocus total sur les puces, etc. Donc en fait, ils ont des intérêts quand même qui sont très liés. Très, très liés. Et là-dessus, je crois qu'il faut, calme et raison garder. Il ne faut pas se laisser trop impressionner par la surenchère des discours de part et d'autre. Parce que la réalité des choses, c'est que les deux économies sont vraiment très, très interdépendantes. Et si on veut vraiment tout détricoter, eh bien, ce n'est pas l'affaire d'un jour.
Merci Jean-Paul Chang d'être venu ce matin sur Radio Classique, économiste, cofondateur de la Lettre de Chine. Excellente journée.
Radio Classique, rediffusion de la matinale d'hier.
Et bonjour Augustin.
Bonjour Marc, bonjour à tous.
Un avis de recherche à la une des journaux ce matin, il faut trouver 40 milliards d'euros.
Un 4 suivi de 10 zéros, le Parisien aujourd'hui en France l'écrit en chiffres pour que l'on prenne la mesure des économies nécessaires. Autre résumé en une de l'Opinion. Le dessinateur CAC représente un François Bayrou bedonnant en sauteur à la perche. Après avoir réussi à passer la barre du budget 2025, pas très haute, il demande qu'on lui remonte drastiquement celle du budget 2026. Le Premier ministre prendra en effet la parole en fin de matinée, après avoir présidé un comité d'alerte du budget. Il renoue avec ses origines professorales, peut-on lire dans les pages Chaumont du Figaro, pour procéder à un exposé incontestable de la situation et faire accepter les mesures à prendre. D'où cette question, en une du Parisien, où trouver 40 milliards? Le journal a quelques idées, imposer davantage les hauts revenus, baisser les aides à la rénovation énergétique ou celles aux entreprises. De leur côté, les Échos reprennent une note de la Cour des comptes publiée hier qui permettrait de faire 20 milliards d'euros d'économie. Oui, mais voilà, ces idées ne se transformeront pas en mesures politiques, ou du moins pas tout de suite, car aucune annonce ne sera faite aujourd'hui. Le pays s'apprête à entendre que la situation est grave, écrit l'Opinion, et rien de plus pour le moment. Le leader centriste mise sur une stratégie de communication en deux temps, convaincu que pour vendre une réforme, il faut du contexte. Temps 1, dramatisation. Temps 2, il reste à définir. Car, rajoute le quotidien, aucune piste n'est pour le moment acceptable et génératrice de milliards d'euros d'économies, acceptable par la population et surtout par une assemblée fragmentée qui pourrait censurer le gouvernement.
Il y a toutefois une mesure du projet de loi de finances 2026 qui a été présentée hier par François Bayrou. La mise en place d'un fonds de soutien aux communes touchées par des violences urbaines.
Oui, une dépense donc, mais une dépense rendue nécessaire par le fait que les municipalités ont de plus en plus de mal à s'assurer. À cause de des violences urbaines, des cyberattaques, mais surtout de la multiplication des catastrophes naturelles. En face de la photo de la façade de Matignon, qui illustre l'article sur les économies, Le Figaro a placé le cliché aérien d'une commune bretonne entièrement inondée. Et la situation risque de s'aggraver. L'Europe dans l'âge des inondations, titre Le Parisien en page 11. Le bilan dressé ce mardi par l'Observatoire européen Copernicus est formel. L'année 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée sur le vieux continent. Mais l'Europe occidentale a aussi subi l'une des années les plus humides depuis 1950 et les crues les plus étendues depuis 10 ans. Et le journal d'expliquer ce lien contre-intuitif, comme c'est parfois le cas avec le dérèglement climatique. De même que l'augmentation globale des températures n'empêche pas des gelées en plein au printemps, ce réchauffement n'entraîne pas uniquement plus d'épisodes d'aridité, il renforce aussi les précipitations. La raison est simple, pour chaque degré de réchauffement supplémentaire, on estime que l'atmosphère peut contenir 7% de pluie en plus, explique un scientifique. Avec un cercle vicieux, le réchauffement de la température des océans crée plus d'évaporation et donc, in fine, des épisodes de pluie plus violents. Conclusion, désabusés du quotidien. Voir des pluies faire sortir les rivières de leur lit et tout emporter, il va falloir s'y habituer.
Un constat permis par la recherche scientifique européenne autour du dérèglement climatique, la recherche mondiale qui pâtit des coupes budgétaires de Donald Trump, Augustin.
Oui, long article sur le site du Monde ce matin. Depuis son retour au pouvoir, le président américain s'en prend à la science. Par volonté d'économie budgétaire, certes, mais aussi par idéologie, contre des chercheurs en santé ou en sciences de l'environnement perçus comme politiquement orientés. Dernier coup porté par la Maison-Blanche, un document budgétaire transmis au Congrès prévoit la fermeture pure et simple du centre de recherche de l'Agence météorologique et océanographique américaine. Et l'onde de choc se fait sentir bien au-delà de son épicentre. Dans le monde entier, le jeu des collaborations internationales transmet la crise comme un virus dans de nombreux pays. Ici, en France, un accord de recherche entre l'INSERM et un institut américain sur l'abus d'alcool mis en pause. Là, des études sur le Covid menées dans plusieurs pays interrompues. Le retrait des États-Unis est lourd de conséquences dans de nombreux domaines où la recherche ne se fait pas état par état, mais de manière globale, comme sur les maladies infectieuses émergentes. Au-delà, les scientifiques du monde entier s'inquiètent de voir suspendu l'accès à certaines bases de données de référence hébergées par des organismes américains. Certes, des copies ont pu être faites, mais elles doivent rester privées et ne sont plus libres d'accès. Les chercheurs américains déplorent ce climat d'incertitude avec des postes ou des bourses supprimés puis rétablis en quelques jours. Certains ont lancé des actions en justice, d'autres s'expatrient. L'université d'Aix-Marseille a ainsi reçu 250 CV. Un dispositif Choose CNRS, choisissez le CNRS, va être lancé pour attirer des talents en France. Derrière ces questions budgétaires et administratives, des conséquences concrètes pour nos vies, comme la propagation accrue de certaines maladies, ou le temps plus long qu'il faudra pour trouver certains traitements.
Dans ce contexte, vous terminez, Augustin, avec une initiative originale du Printemps de Bourges.
Le festival commence aujourd'hui avec Michel Polnareff, Clara Luciani ou MC Solar en tête d'affiche. Mais les concerts, qui ont été le plus rapidement complets, nous apprend La Croix, sont des spectacles d'un nouveau genre. Des concerts écolos, sans électricité. Pas d'ampoule, mais des bougies. Pas de micro, mais la puissance de la voix. Pas d'amplification, mais des instruments acoustiques. Six artistes ou formations ont accepté de se prêter au jeu, comme la chanteuse Émilie Loiseau ou la violoncelliste Dom La Nena avec son quatuor à cordes. Alors évidemment, chanter sans micro et jouer sans amplification, c'est la norme du classique, mais c'est pas du tout celle de la plupart des musiques modernes. Cette économie de moyens, à contre-courant des gigantesques tournées des stars de la pop américaine, a une véritable dimension artistique. Elle permet de rapprocher les spectateurs et les artistes. Une piste de réflexion donc, même si le directeur du festival reconnaît que ça n'a aucun sens économique, car seules 60 personnes peuvent assister à chaque concert. D'où l'importance des subventions pour faire émerger ces nouvelles formes culturelles qui deviendront peut-être celles de demain. À l'heure des économies budgétaires, ça sera sans doute dur à entendre pour certains, mais ça ne sera pas à cause du manque de micros.
Vous pouvez nous rappeler le nom de cette violence?
Dom La Nena avec son quatuor à cordes, et c'est une belle découverte faite ce matin.
La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau.
8h42, Esprit Libre sur Radio Classique. Avec nous, Cécile Cornudet, journaliste politique au journal Les Échos, et l'éditorialiste Christophe Barbier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Attention, soupe à la grimace donc. Hein, François Bayrou organise aujourd'hui son comité d'alerte pour préparer les Français à de nouvelles économies. 40 milliards d'euros pour le budget l'an prochain, pour retrouver un déficit à 4,6%. D'un point de vue politique, d'abord, à quoi va servir réellement cette conférence, ce comité d'alerte qui va se tenir ce matin à Matignon?
Il y a le rêve et la réalité. Oui. Le rêve, ça serait le surgissement d'une conscience nationale partagée sur le diagnostic et sur les remèdes qu'il faut appliquer. Et derrière, une forme d'union sacrée. Des partis qui diraient, oui, la patrie est en danger, les finances sont en danger, on va se mettre d'accord autour d'un budget 2025 d'abord, parce qu'il va falloir le corriger, et 2026 ensuite. Ça, c'est le rêve. La réalité, hélas, c'est que je pense que ça va tourner mal pour François Bayrou, qu'il va être accusé d'abord par les cibles éventuelles de ces économies. Ça commence avec l'Association des maires de France qui ne se rend pas à la réunion. Nous ne voulons pas être victimes des coupes budgétaires de l'État. Et puis deuxièmement, les partis politiques vont penser non à l'intérêt de la France financier à court et à moyen terme. Les partis politiques vont penser à la présidentielle, comme ils le font depuis 2022 et a fortiori depuis 2024. Ils vont se dire, qu'avons-nous intérêt à provoquer comme crise pour être sûr de gagner ou être plus sûr de gagner que le voisin en 2027. Et je pense qu'une partie de la classe politique va se dire, va falloir faire tomber Bayrou, le gouvernement Bayrou, sur le budget 2026. Et donc on est en train de se préparer un automne de crise politique, censure du gouvernement, chute du gouvernement et peut-être dissolution.
Mission impossible pour François Bayrou.
En tout cas, on va voir qui est ce qu'il a dans le ventre. D'une certaine façon, François Bayrou, aujourd'hui, il fait l'exercice qu'il adore. Il alerte la population sur les dangers de la dette. Il répète souvent que c'est lui qui a mis ce sujet en 2007 dans sa campagne présidentielle, le premier. Donc, il veut créer, effectivement, comme disait Christophe, un choc des consciences. Sa référence, c'est Édouard Philippe sur le Covid, qui avait, avec des graphiques, dit « Regardez, la situation est compliquée, il va falloir qu'on se serre les coudes pour trouver des solutions ensemble. » Après, ça ne vaut que effectivement, si ça prépare les esprits à des efforts, à des choses difficiles derrière. Et ça, c'est la grande inconnue. On sent qu'il y a un peu une différence d'appréciation de ce point de vue entre Emmanuel Macron et François Bayrou, sauf que dans la situation actuelle, je pense que c'est quand même plus François Bayrou qui va trancher et décider. Est-ce qu'il y aura une désindexation des retraites? Est-ce qu'il y aura, on touchera aux APL? Est-ce qu'on touchera aux niches fiscales? Donc, il y a tout un package de mesures difficiles à prendre. Est-ce que François Bayrou sera capable de les prendre ou est-ce qu'en réalité, son exercice d'aujourd'hui sert surtout à gagner du temps, à ne décider qu'en juillet pour espérer reporter le risque de dissolution à plus tard.
L'exécutif qui change de méthode, il y a une idée de co-construction, il y a eu cette réunion hier avec les chefs d'entreprise.
La co-construction des partenaires sociaux, est-ce que vous avez déjà vu une mesure courageuse sortir d'un conclave de partenaires sociaux ou d'hommes politiques, puisque c'est ça l'idée. L'idée, c'est de dire, mettez-nous des propositions sur la table, comme ça, vous les aurez portées, et nous, on choisira parmi elles. Jusqu'à présent, on ne voit pas quelle solution ça peut être.
On recule donc, hein, finalement, c'est à peu près le constat, Christophe Barbier, c'est pour reculer l'échéance.
On verra tout à l'heure, oui. Parce que ce moment est quand même très important. C'est une journée très importante pour François Bayrou. Le constat, la dramatisation, ça ne s'agite pas. On ne doit pas faire comme ça des postures politiques. S'il arrive à se hisser au-dessus de la posture, il n'aura pas perdu sa journée. Et il renverra finalement la balle de la responsabilité dans le camp de ses opposants. Et là, il aura marqué son territoire. En revanche, on attend quand même des pistes de solutions aujourd'hui, et là je crains qu'on soit déçu. Parce qu'on sait que François Bayrou doit gagner du temps, veut gagner du temps, et qu'il va renvoyer le plus loin possible, sans doute à l'automne, les choix concrets. Est-ce qu'on touche aux retraites? Est-ce qu'on désindexe les retraites par rapport à l'inflation? Il y a beaucoup d'économies à faire. Est-ce qu'on touche aux niches fiscales, c'est-à-dire une augmentation d'impôts déguisée? Est-ce que, par exemple, on supprime MaPrimeRénov? Est-ce que l'on touche au remboursement de sécurité sociale en disant, ben voilà, vous allez payer plus pour votre santé parce que l'État ne peut pas se substituer à vous? Est-ce qu'il ouvre des pistes concrètes de ce côté-là? La seule piste dont on a vaguement entendu parler, c'est les collectivités locales, qui ont déjà crié avant d'avoir mal. Mais pour l'instant, on n'entend rien de concret. Le chirurgien nous dit « le malade va mal », mais il ne nous montre pas ses outils.
Et alors, en privé, François Bayrou dit « Vous vous trompez complètement sur moi, ce n'est pas l'immobilisme, je vais faire, je m'en fiche si je suis censuré, je m'en fiche si je ne dure pas, vous allez voir ce que vous allez voir. » Donc, on va voir.
De l'audace.
Voilà.
On va voir s'il y a de l'audace.
Il le promet parce qu'il n'aime pas cette petite musique sur lui. Mais tout son passé, à chaque fois que François Bayrou est venu dans le débat public depuis 30 ans, c'était pour dire « Oh, halte-là !» Par exemple, Emmanuel Macron, après 2022, il voulait faire passer l'âge de la retraite à 65 ans. C'est lui qui a dit non, c'est trop 65 ans, faisons 64 ans. À chaque fois, c'était du moins 10 ans. Donc là, est-ce qu'il est capable de faire du mieux 10 ans? On aura quand même, je pense, un début de réponse aujourd'hui. La tonalité sera importante à regarder.
A priori, il n'y aurait pas d'annonce, hein, Matignon l'a plus ou moins annoncée.
C'est logique. Oui. On est dans un premier
moment.
On est dans un premier moment. C'est logique de ne pas faire des annonces. Attention, il faudra des annonces assez rapides sur le budget 2025. L'exécution de ce budget est impossible. Les chiffres promis, le 5,4 de déficit, la croissance interdue, tout ça est caduque. On a eu 5 mois de crise politique pour accoucher d'un budget qui est un budget morné ou quasiment morné. Et donc, il faut tout de suite réagir. Rappelons-nous qu'en 2024, ne pas avoir fait de loi de finances rectificative, avoir mis la poussière sous le tapis parce qu'il y avait les européennes, ça a coûté très cher au gouvernement Attal. Sa disparition, ça a coûté surtout très cher à la France.
Alors, il ne veut pas de loi de finances rectificative, et ils vont annoncer au fur et à mesure des
correctifs, des gels,
des correctifs, comme ils viennent de le faire, 5 milliards là, de réserves. Parce qu'en réalité, je pense que le calcul de François Bayrou, c'est que à l'automne, il n'y aura pas de censure, parce qu'on sera à la veille des municipales, que ce sera plus compliqué. Moi, je pense que au contraire, hein, la veille des municipales peut-être aiguisera les politiques, mais en tout cas, c'est son calcul. Oui. Et donc, il veut pas prendre le risque maintenant. C'est pour ça qu'il ne veut pas de loi de finances rectificative, et pour ça que les annonces sont plutôt attendues vers juillet, sans session extraordinaire, donc des annonces qui sortent comme ça, et après on part sur l'automne. Et pour ça aussi que vous savez, sur le conclave retraite, il a beaucoup dit, après il y aura une loi pour mettre en œuvre les décisions qui seront prises. On pensait que cette loi serait faite en juin. En fait, manifestement, c'est plutôt septembre, donc tout est reporté à l'automne, avec l'idée que ce sera plus compliqué de censurer à ce moment-là. C'est un gros pari.
Alors, l'autre fait du jour, hein, c'est la parenthèse qui n'a duré qu'une petite semaine. Le bras de fer repart entre la France et l'Algérie. Trois ressortissants, je le rappelle, trois ressortissants algériens en détention en France après l'enlèvement d'un influenceur opposé au régime. En réponse, 12 agents de l'ambassade française à Alger sommés de faire leurs valises. Emmanuel Macron, pour l'instant, n'a pas donné de réponse. Il se donnait 48 heures pour en donner une. Que peut bien faire l'Élysée dans tout cela ? Christophe Barbier.
Il faut d'abord sortir de l'escalade. Je t'en attrape un, tu m'en expulses 12, tu m'en expulses 12, oui. Je t'en expulse 25. Faut déplacer le terrain. Faut montrer la fermeté face à Alger, mais en changeant de terrain. Ça peut être sur le terrain économique, ça peut être d'autres messages diplomatiques. Il faut pas perdre de vue que le réchauffement entre Alger et Paris la semaine dernière, c'était pas un simple réchauffement de façade. Allez, bon, on siffle la fin de la récréation, on siffle la fin des chamailleries. Non. C'était la volonté profonde de deux présidents de se dire à terme, on est tous les deux perdants si ça s'envenime. Donc, on a joué notre jeu de politique intérieure, Retailleau son jeu, Tebboune son jeu, pour des raisons chacun de politique intérieure, on va voir plus loin. C'est ça qui a été brisé par un fait démocratique qui s'appelle l'indépendance de la justice française et qui a arrêté en effet un membre du consulat algérien. À partir de là, faut garder cette vision longue et dire, à long terme, il faut qu'on s'entende. Le long terme, comme son nom l'indique, c'est pas demain matin, donc on peut repartir dans un jeu de chamaillerie. Je note quand même que depuis ce nouvel incident, Bruno Retailleau n'a pas repris la parole sur la méthode dure. Pourtant, il était au Maroc, ça aurait été évidemment très intéressant pour lui, il aurait pu en profiter. Il voyait que les diplomates étaient en difficulté sur leur ligne douce, il aurait pu prendre son bénéfice. Il ne l'a pas fait, en partie à mon avis, parce que ça donne du grain à moudre à Laurent Wauquiez qui le pousse au crime de ce côté-là, en lui disant « mais vas-y, monte ta fermeté !» Et donc, il n'a pas voulu donner une arme à Wauquiez, en partie aussi peut-être parce que l'Élysée et le Quai d'Orsay ont vraiment repris la main.
Et beaucoup parce que l'Algérie pense que c'est Bruno Retailleau qui est derrière tout ça. C'est devenu la bête noire du gouvernement. C'est vrai que ça n'a rien à voir, cette arrestation, avec Bruno Retailleau. Et manifestement, dans toutes les explications données par l'État algérien, c'est Bruno Retailleau qui visait. Il pense que c'est lui qui est derrière cette accélération de la justice. Donc, je pense qu'il se tait. Je pense que c'est pour ça aussi que Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, prend la parole ce matin en disant c'est Bruno Retailleau n'a rien à voir dans l'affaire. C'est une histoire totalement indépendante de notre volonté. Mais moi, je trouve que le court terme est assez inquiétant. En gros, l'Élysée a fait savoir hier qu'il se donnait 48 heures pour prendre des mesures. Pourquoi ? Parce qu'il pensait que dans ces 48 heures, l'Alger baisserait d'un ton. Or, ce matin, 24 heures après, non. Alger maintient son envie d'expulser les 12 diplomates français, donc conduit presque automatiquement à la recherche d'une réplique française. Ce qui est dans les tuyaux, c'est aussi d'expulser 12 diplomates algériens. Donc là, on part dans l'escalade dont parle Christophe. Donc voilà, c'est quand même un mauvais moment là, et surtout c'est Dualem Sansal qui se retrouve à nouveau la victime collatérale d'un débat qui n'en finit pas entre les deux pays.
Dualem Sansal, justement, c'était au cœur des discussions entre Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune. On recommence à zéro, on repart à zéro.
Non, pas vraiment à zéro. Il y a eu un premier jugement, il a fait appel. Oui. Donc ça redonne un délai aussi pendant lequel la justice va se prononcer. Et puis sur la grâce qu'on attend du président algérien, on sait qu'il y a des rendez-vous, notamment début juillet, des rendez-vous classiques de grâce en Algérie, dont pourrait profiter Boualem Sansal. Mais évidemment, 2 mois, 3 mois, c'est beaucoup pour un homme de son âge injustement malade. Détenu.
Justement détenu. Donc on va suivre évidemment ce qui va se passer entre la France et l'Algérie tout au long de cette semaine. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Cécile Cornudet du journal Les Échos, Christophe Barbier, éditorialiste.
Radio Classique. Vous écoutiez une rediffusion de la matinale d'hier.
Vous êtes bien avec Radio Classique.
Bonjour à tous.
Nous allons nous poser cette question toute simple, mais qui mérite quand même qu'on la creuse. Est-ce que Bonaparte a eu raison ou tort de vendre la Louisiane ?
Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Paris, le 12 avril 1803. Regardez cette belle voiture qui arrive. Elle entre dans la cour d'un bel hôtel particulier tout près de la place Vendôme. C'est l'ambassade des tout jeunes États-Unis d'Amérique. Et dans la cour de l'hôtel particulier, deux personnes descendent de la voiture, deux personnes très importantes. L'un s'appelle Robert Livingston, vous le connaissez, c'est un des pères fondateurs des États-Unis. Il a participé à la rédaction de la Constitution, un homme de 57 ans. Depuis deux ans, il est maintenant ambassadeur à Paris. Il représente ces tout jeunes États-Unis d'Amérique. C'est un homme qui connaît très bien les négociations, il y est rompu, Livingston. Il a été un des premiers secrétaires aux affaires étrangères avant de voyager énormément sur le vieux continent pour défendre les intérêts de ce nouveau pays. Et donc, c'est en France qu'il se trouve, et rapidement après l'arrivée de Bonaparte à la tête du pays, c'est vers lui qu'on s'est tourné pour occuper ce poste d'ambassadeur de France. L'autre, celui qui est avec lui, est un petit peu plus jeune, il a 45 ans, il a tout de même été l'un des officiers importants de la guerre d'indépendance, et vous connaissez son nom puisqu'il s'agit de James Monroe, et que plus tard, 10 ans plus tard environ, il sera lui-même président des États-Unis. Monroe connaît très bien Paris. Il a été ambassadeur américain de 1794 à 1796, autant dire pendant la République thermidorienne et le tout début du directoire. Ce qu'il vient de voir de Paris et même de la France en général le laisse sans voix. En 94, c'était, on sortait de la terreur, hein, c'était la chute de Robespierre, on sortait de la Convention, les guillotines étaient encore un peu partout, on parlait de sang, d'échafaud avec des murs couverts de graffitis qui appelaient les citoyens à prendre les armes. Et puis on voyait partout des grands édifices plus ou moins abandonnés, tout ça était terrible. Et bien là, c'en est terminé de tout ça. En 1803, on ne parle même plus de citoyens. Monroe a du mal à reconnaître le pays. Il était arrivé au Havre deux jours plus tôt. Le voilà en plein cœur de la capitale, envoyé donc par le président Jefferson avec une mission très particulière qui est d'acheter la Nouvelle-Orléans. Vous avez bien compris qu'on n'est pas encore tout à fait sous l'Empire. L'Empire ne sera proclamé que dans un an. Pour l'instant, c'est le consulat à vie, mais Napoléon Bonaparte a remis de l'ordre partout. On ne sent presque plus, un peu quand même, mais presque plus les effets de la Révolution. Évidemment que la Nouvelle-Orléans ça intéresse particulièrement les jeunes États-Unis. Vous imaginez bien, ils sont prêts à se battre pour récupérer un tel endroit. Pour éviter d'avoir recours à la force, James Monroe est donc en mission à Paris avec comme but de négocier avec le consul à vie, premier consul à vie, et son ministre des relations extérieures. Vous connaissez ce ministre puisqu'il s'agit de Talleyrand, bien entendu. Il s'agit de négocier la cession de ce territoire. L'ambassadeur Livingston s'était rendu du Havre pour accueillir Monroe à la descente de son navire. Il avait l'intention de s'entretenir avec l'envoyé de Jefferson pour lui transmettre les dernières rumeurs qui circulent à Paris concernant ce dossier de la Nouvelle-Orléans. Autant dire que ce n'est pas de bonnes nouvelles puisqu'une expédition militaire française est en train de se former, qui s'apprête à se rendre en Louisiane pour explorer l'immensité de ce territoire. Parce qu'il n'y a pas que la Nouvelle-Orléans, il y a un territoire absolument gigantesque là derrière. Autant vous dire que pour ces deux très importants représentants des États-Unis, la négociation qui s'annonce va être sans doute tendue et difficile.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Alors, il faut peut-être quand même revenir sur la base de toute cette histoire et se demander pourquoi la France possède cette Louisiane. Vous vous rappelez peut-être qu'à la fin de la guerre de 7 ans, désastreuse guerre de 7 ans, au moment du retournement des alliances, sous le règne de Louis XV, la guerre a duré de 1756 à 1763. Elle s'est terminée par le traité de Paris, désastreux pour la France, qui a perdu tous les territoires qu'elle possédait sur le continent américain, excepté quelques possessions dans les Antilles et Saint-Pierre-et-Miquelon, c'était les deux exceptions. La France avait perdu ce qu'on appelait la Nouvelle-France, hein, ce gigantesque territoire qui couvrait à la fois le Québec, l'Acadie, la Louisiane englobant le fleuve Saint-Laurent, les Grands Lacs, tout le bassin du Mississippi, vous imaginez. La France perd aussi des territoires en Inde, hein, tout, elle n'avait conservé que cinq comptoirs, vous savez bien, Pondichéry, Chandernagore, Karikalma et Annan. Et puis, la France, d'une certaine façon, s'était recentrée sur son territoire originel. Concernant la Louisiane, la France a préféré la rétrocéder aux Espagnols. Voilà ce qui s'est fait en 1763. N'oubliez pas que la couronne d'Espagne, Bourbon, était alliée à la couronne de France, bien sûr. La France n'a jamais perdu de vue la possibilité de retrouver la souveraineté de tout ce territoire. Et pour s'imaginer la taille de la Louisiane, eh bien, dites-vous que ça représente tout simplement un tiers. Je dis bien un tiers des États-Unis actuels. En Europe, on n'a jamais tellement eu l'occasion de se représenter véritablement l'immensité de ce territoire. Ce qui intéresse les Européens et les Français en l'occurrence, ce sont les richesses qu'on s'imagine très nombreuses sur ces terres. Et évidemment que Bonaparte ne perd pas de vue la Louisiane. Jean Tullard, que j'ai toujours grand plaisir à citer et à saluer, vient de faire paraître dans la jolie collection Vérités et Légendes chez Perrin, un ouvrage qui donc s'intitule Napoléon, Vérités et Légendes. Et dans ce livre, il questionne tous les lieux communs qui peuvent exister sur Napoléon. Et parmi les 30 chapitres, il y en a un, bien sûr, consacré à la vente de la Louisiane. Et voici ce que nous dit Jean Tullard. Bonaparte reprend à son tour l'idée d'une reconquête de la province perdue. Il est poussé par la bourgeoisie des ports de l'Atlantique qui entendait développer ses activités commerciales avec l'Amérique. S'esquisse l'idée d'une sorte d'empire colonial mettant en rapport la Louisiane et Saint-Domingue, Saint-Domingue producteur de coton et de sucre, après la victoire de Marengo. Bonaparte enjoint aux représentants français auprès de la cour de Madrid de faire pression sur le roi Charles IV pour obtenir la cession de la Louisiane à la France. La Louisiane coûtait plus qu'elle ne rapportait à l'Espagne et Charles IV se laissa convaincre. Le 1er octobre 1800 est signé le traité de Saint-Ildefonse par lequel l'Espagne rétrocède à la France la province de Louisiane avec la même étendue que lorsque la France la possédait. En contrepartie, la France s'engageait à augmenter le duché de Parme d'une partie de la Toscane et autorisait le duc de Parme, qui était le gendre du roi d'Espagne, à porter le titre de roi d'Étrurie. Ce qui intéresse Bonaparte, c'est la plateforme commerciale magnifique qui pourrait être installée, organisée dans le port de la Nouvelle-Orléans en relation avec les très riches colonies antillaises. On ne voit pas ce qui pourrait motiver les Français à accepter de rétrocéder la Nouvelle-Orléans à cette nation, certes amie, mais toute jeune et à l'époque pas très importante encore, que sont ces lointains États-Unis d'Amérique. Quand je vous dis que la négociation va être compliquée, elle s'annonce même particulièrement ardue pour les deux représentants américains. Une ouverture de circonstance d'Alexander Reinagle, qui est un compositeur américain de cette époque. L'ensemble Sinfonia Finlandia était sous la direction de Patrick Gallois.
Vous écoutez Radio Classique.
Dans un premier temps, les Français vont pas révéler aux Américains qu'ils viennent d'acquérir la Louisiane. Ils savent que cette question est un sujet brûlant de l'autre côté, là-bas. Il y a d'ailleurs de nombreuses tensions entre Espagnols et Américains au cours des 40 années qui se sont développées depuis l'indépendance américaine. Des coups de feu ont été échangés entre les deux rivages du fleuve Mississippi pour des sujets qui peuvent sembler mineurs, mais qui, à chaque fois, auraient tout à fait pu dégénérer. Les États-Unis voudrait bien sûr récupérer le port de la Nouvelle-Orléans, qui est le grand port de la côte sud du pays. Pour l'instant, ils ne s'intéressent pas encore vraiment à la Louisiane en général. Ils estiment que là-bas, il n'y a pas grand-chose à faire dans ces territoires gigantesques et peu fertiles. C'est le port, c'est le commerce qui intéresse le président Jefferson, bien sûr. Et d'ailleurs, la nouvelle de l'acquisition de la Louisiane par la France ne va pas rester secrète très longtemps. Quand je dis de l'acquisition, de la récupération, devrait-on dire. La confirmation arrive aux oreilles du président américain dès le 18 avril 1803. Il dit « Il est sur le globe un point dont la possession par un pays étranger est pour nous un danger certain, c'est la Nouvelle-Orléans ». Et plusieurs sénateurs américains affirment qu'ils seraient prêts à déclarer la guerre à la France pour cette question. Inutile de vous dire que Bonaparte ne se soucie pas tellement de cela. La Louisiane, alliée à Saint-Domingue, serait une très grande chance pour le commerce français, une grande source de richesse, et dans la période où l'on est, en sortant de la Révolution, évidemment, c'est très important. Toutefois, il va y avoir quelques déconvenues dans les plans du consul. La première déconvenue, c'est qu'il n'arrive pas à récupérer Saint-Domingue aux mains de Toussaint Louverture. Vous vous rappelez cette histoire que j'ai eu l'occasion de vous raconter. Il y a plusieurs expéditions qui ont été mises en échec. Et puis, l'océan, à l'époque, l'océan Atlantique, est complètement dominé par la marine britannique. Les Anglais sont partout, qui ne laissent évidemment pas les navires français en paix. Parce que la paix d'Amiens, qui vient tout juste d'être signée, n'est pas bien respectée. Et il devient assez vite évident que la guerre, tôt ou tard, va de nouveau éclater entre les deux grandes puissances du vieux continent. Alors, si je reviens au 12 avril 1803, au moment où James Monroe arrive à Paris pour négocier l'achat de la Nouvelle-Orléans, au même moment, Bonaparte est en train de s'entretenir avec son ministre du Trésor, qui est Barbé Marbois, et avec Decret, le célèbre ministre de la Marine. Les trois hommes sont en train de discuter justement de ce projet, parce que au même moment, il y a une expédition qui doit partir de Hollande pour aller prendre possession de la Louisiane, qui depuis trois ans est encore de facto sous présence espagnole. Donc il faut agir assez rapidement, et Bonaparte, de plus en plus, penche pour une vente de la Louisiane. Et alors, quand il dit vente de la Louisiane, il ne s'agirait pas de faire de quartier, on pourrait vendre l'ensemble aux États-Unis. Il demande à ses deux ministres ce que eux en pensent. Le ministre du Trésor, c'est toujours la même histoire, vous savez, les siècles se suivent et se ressemblent de ce point de vue. Bien sûr que le ministre du Trésor est favorable. Les ministres du Trésor sont toujours favorables à ce qu'on vende tout, puisque leur but, c'est d'améliorer la trésorerie. Voici ce que dit Barbé Marbois. La guerre avec l'Angleterre est inévitable. D'ailleurs, sans employer leur flotte, les Anglais peuvent gagner la Louisiane par les Grands Lacs. La France n'a là-bas ni troupes ni vaisseaux, une frontière non fortifiée de 400 lieues, autant dire 800 kilomètres. Si les Anglais ne s'en saisissent pas, les Américains le feront et bientôt nos commerçants eux-mêmes reconnaîtront que la Louisiane libre leur offre plus de chances de profit que la Louisiane soumise au monopole. Des comptoirs sont aujourd'hui préférables aux colonies et même à défaut de comptoirs, laissez faire le commerce. Bon, ça, c'est les arguments de la trésorerie, si je puis dire. Le ministre de la Marine, lui, n'est pas du tout de cet avis. Et ça, c'est la même chose, c'est tout à fait normal. Il est dans son rôle. « Citoyen consul, dit Decret, ce n'est pas à vous qu'il convient de redouter l'Angleterre. Si elle s'emparait de la Louisiane comme on voudrait le faire craindre, le Hanovre serait aussitôt entre vos mains, un gage certain de restitution. Le pays est connu, des forts existent, la terre est fertile et les grandes dépenses sont faites. Il n'est pas sur aucun point du globe un point susceptible de devenir aussi important que la Nouvelle-Orléans. Le Mississippi n'y arrive qu'après avoir reçu 20 rivières, dont plusieurs surpassent les plus grands fleuves d'Europe.
Et à mesure qu'il passe, qu'il parle, le ministre voit bien que Bonaparte songe à autre chose. Il n'est pas d'accord. Le premier consul sait que l'Espagne a beaucoup perdu d'argent en Louisiane les dernières décennies. La France doit se préparer à mener en Europe une guerre très importante. Ce n'est pas le moment d'aller perdre de l'argent sur un nouveau continent pour avoir probablement le même résultat qu'avait eu Louis XV 40 ans plus tôt avec sa guerre de 7 ans. Et puis, il y a une autre idée qui vient à Bonaparte. Il se dit que vendre la Louisiane aux États-Unis, c'est permettre aux États-Unis de devenir une grande nation qui pourrait rivaliser avec la nation anglaise et donc l'affaiblir, non seulement là-bas sur le territoire américain, mais d'une façon plus générale sur les mers du globe. Et ça permettrait aussi... D'abord, ça permet d'affaiblir l'Angleterre, et tout ce qui affaiblit l'Angleterre fait du bien à Napoléon, mais ça permettrait aussi de renforcer cette amitié franco-américaine sur laquelle on pourrait ensuite faire foi. Bref, faire fond. À la fin de la réunion, Bonaparte en est convaincu, les Américains sont intéressés par la Nouvelle-Orléans, et bien s'ils le veulent, on va leur vendre la Louisiane. Chant de fraternité de Beethoven par l'Orchestre symphonique de Londres et The Ambrosian Chorus sous la direction de Michael Tilson Thomas.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Bon, ça y est, la vie du premier consul, enfin du consul à vie maintenant, qui va devenir empereur d'ailleurs dans quelques mois, est totalement fait. Et il s'agit de négocier. Et qui va négocier avec les deux représentants de la jeune nation américaine? Est-ce que j'ai besoin de vous dire que c'est le ministre des Relations extérieures? C'est Talleyrand, bien sûr. Qui, vous connaissez sa tactique, va faire patienter les deux malheureux pendant le plus longtemps possible. Le but, c'est qu'on comprenne comment il faut procéder pour être reçu par M. Talleyrand. Il faut mettre la main à la poche. Talleyrand marchande toujours ses bons offices, vous savez. Et Livingstone et Monroe sont deux personnes qui ont déjà eu à plusieurs reprises affaire au diable boiteux. Ils se plient donc à tout ce procédé. Oh, ils vont plus attendre très longtemps. À partir du moment où vous apportez les pièces d'or, tout va bien. Les deux hommes sont donc reçus. Talleyrand est très courtois. Il leur demande, c'est la question centrale, combien votre gouvernement paierait est-il pour la cession de la totalité du territoire de la Louisiane ? Monroe est un peu surpris quand même. Il était venu pour discuter de l'achat de la Nouvelle-Orléans et voilà qu'on lui propose un territoire aussi vaste. Un territoire qui fait d'ailleurs, pour être tout à fait clair, trois fois la taille du territoire américain de l'époque, parce qu'on est encore dans les tout jeunes États-Unis, bien sûr, qui ne se sont pas développés. Monroe répond que son gouvernement est intéressé. Et de toute façon, il n'a pas le choix. Face à une proposition pareille, il ne va pas se montrer bégueule, hein, bien sûr. Il demande quelques jours quand même pour réfléchir. Il faut qu'on établisse une somme qu'on pourrait proposer, qui serait raisonnable, qui serait acceptable des deux côtés. Talleyrand remercie les deux Américains. Il précise que désormais, c'est avec le ministre du Trésor qu'ils devront traiter, avec Barbet Marbois. Et quelques jours plus tard, face au ministre, Monroe va proposer la somme de 50 millions de francs. On parle évidemment des francs or de l'époque, vous imaginez, c'est une somme quand même très importante. Mais Barbet-Marbois se dit que la somme n'est pas à la mesure d'un territoire aussi gigantesque. Voici ce que dit le ministre. Le prix est fixé à 80 millions. Il serait inutile de proposer une réduction. N'est-ce pas pour les États-Unis une somme bien inférieure à la valeur de ces immenses territoires ? Monroe ne négocie donc pas. Il accepte 60 millions qui seront donnés directement à la France et 20 millions qui permettront d'éponger un certain nombre de dettes. Et en vue du versement de cette somme très importante, est établi un traité. Voici ce qu'écrit Jean Tullard. Le préambule du traité est ainsi rédigé, nous dit Jean Tullard. Le premier consul de la République française au nom du peuple français est le président des États-Unis d'Amérique, désirant prévenir tout sujet de mes intelligences. Voilà comment ça commence. En fait, dit Jean Tullard, Bonaparte aimait le jeu d'échecs. L'abandon d'une pièce peut être gagnant. Céder la Louisiane permettait déjà à Bonaparte, dans l'immédiat, de contrecarrer la puissance anglaise et de restaurer l'amitié franco-américaine. Mais il voyait plus loin. Cette transaction affermit pour toujours la puissance des États-Unis. Il leur assurait la vaste expansion territoriale qui leur a permis de devenir une grande puissance. Et paradoxalement, le traité fut mal accueilli aux États-Unis. Certains auraient souhaité qu'il fût limité à la Nouvelle-Orléans. Pourquoi acquérir tous ces vastes territoires peuplés de serpents à sonnettes, de coyotes et de sioux, et pour une somme jugée énorme ? Nécessairement, le traité va décevoir tout le monde. Il suscite des critiques aux États-Unis, mais il suscite aussi des critiques en France, bien sûr. Vous imaginez notamment la situation des Français qui se trouvaient, eux, en Louisiane à l'époque, et qui voient leur pays, leur métropole, les abandonner. On écrit dans le traité qu'ils sachent que nous nous séparons d'eux à regret et qu'ils se souviennent qu'ils ont été Français, que l'origine, comme la parenté, le langage, les mœurs perpétuent l'amitié. On a envie de dire, mais décidément, ce Bonaparte ne recule devant rien.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Ce qui est assez incroyable, c'est que la France a vendu la Louisiane sans même avoir pris le temps de récupérer ce territoire à la suite du traité de 1800 qui avait été passé avec l'Espagne, rappelez-vous. Et de plus, dans la constitution de l'an 8, auquel a succédé l'acte organique du 4 Thermidor en 10, le Sénat devait régler les questions des colonies. C'était une prérogative sénatoriale, ça ne relevait pas des prérogatives du premier consul, cette histoire. Bonaparte ne pouvait donc pas, constitutionnellement, il ne pouvait pas disposer, comme il l'entendait, de la Louisiane. Mais on sait que celui qui, dans quelques semaines, se fera appeler Napoléon Ier, n'est pas très regardant sur ce genre de circonstances. L'expédition qui devait se rendre en Louisiane est annulée, ça fait des économies supplémentaires. Les traités sont conclus le 30 avril 1803, mais le temps qu'on arrive à tout traduire, il faut attendre le 8 mai pour que soient signés les traités. Bonaparte déclare « Je viens de donner à l'Angleterre une rivale maritime qui, tôt ou tard, abaissera son orgueil. » Oui, c'est un des aspects des choses et c'est celui qui était le plus essentiel aux yeux de Bonaparte. Est-ce que pour autant il a eu raison de vendre la Louisiane aux Américains ? Vous savez que ça lui est beaucoup reproché, bien entendu. La question aussi, c'est de savoir si la France avait les moyens de maintenir sa présence de façon efficace sur des territoires aussi gigantesques et à l'époque aussi improductifs. On peut imaginer que les États-Unis n'auraient de toute façon pas très longtemps accepté la présence d'une si grande puissance directement à leurs frontières. On aurait pu entrer dans une guerre avec les États-Unis. Enfin, de toute façon, ne faisons pas d'uchronie. La vérité, c'est que ce territoire absolument gigantesque, cette nouvelle France, a été vendue et bien vendue aux jeunes États-Unis.
Vous écoutez Radio Classique.
Radio Classique.
La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans la matinale de l'économie. Les Français ne travaillent pas suffisamment. Le Conseil national de la productivité estime qu'il y a urgence. La pandémie a cassé le moteur. Nous n'avons pas réussi à retrouver les niveaux d'avant Covid, contrairement à nos principaux partenaires européens. Quelles sont les pistes pour améliorer notre productivité? On y reviendra tout à l'heure dans le journal de l'économie à 6h40. Le foot français est-il menacé par une nouvelle crise financière? La Ligue de football professionnel et le britannique DAZN, principal diffuseur de la Ligue 1, n'ont pas réussi à se mettre d'accord malgré une médiation organisée par le tribunal de commerce. Un bras de fer qui n'est pas sans rappeler le scandale de Mediapro qui avait plongé les clubs de foot français dans une situation financière très tendue. On va également y revenir ce matin. Et puis, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Radio Classique, notamment la matinale de 6h à 9h. La dernière enquête Médiamétrie le confirme. Merci à tous pour votre fidélité et bienvenue à celles et ceux qui ont rejoint récemment le million d'auditeurs quotidiens de Radio Classique. Dans un instant, le premier journal, mais d'abord la météo de ce mercredi. Avec Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Un temps agité au programme aujourd'hui.
Avec de la pluie sur une large bande diagonale des